catch you my plane and go back to France. Is that what you want?
Depuis mon retour de Gangtok, j'ai été malade. D'abord un rhume insidieux et une bronchite grasse et jaune avec une légère fièvre. Je suis allé chez un médecin et me suis fait faire une injection mixte de procaïne, pénicilline, streptomycine. Puis mon bras est resté dur pendant plusieurs jours et légèrement enflé, signe d'une allergie à l'injection. Puis, lassitude des chaleurs de Calcutta et journée de torpeur et de consternation, lisant sans curiosité et fatigué de parler à des Bengalis. Puis, à la conférence des poètes bengalis de Jamshedpur. Une légère attaque rénale. Dû me faire une injection d'atropine et suis rentré fatigué à Calcutta, continuant à tousser de mes excès de cigarettes. Puis plusieurs jours à l'opium et une injection de morphine et des tests d'allergie qui ont empiré l'enflure de mon bras droit en protestation contre la minuscule dose de pénicilline procaïne sous-cutanée, puis examen d'urine indiquant un excès de phosphore et de calcium, oxyde dans l'urine, suivi par une brusque dysenterie et une fatigue des os due à la chaleur. Alors, ce soir, me suis offert une bonne grosse piqûre avec le dernier demi-grain de morphine atropine et me détends maintenant au lit. Mon corps se sent mieux et la vision des ordures urinaires près de Chinatown ne me soulève plus le cœur. Au cas où je mourrais, tous mes carnets et mémorabilia publiés et inédits et recueil de lettres et dessins ainsi que la propriété des copyrights de mes livres publiés va à Peter Orlovsky en tant qu'héritier et exécuteur in toto. Allen Ginsberg. Alors, je venais d'écrire le petit rapport médical ci-dessus, suivi. Peter ne savait pas ce que j'écrivais. Par, sur la suggestion de Peter, cette vieille idée de rédiger quelques lignes au sujet de mes dernières volontés. Ceci à propos d'une conversation sur son livre de poèmes qu'il prépare enfin et mes journaux d'Amérique du Sud à taper. Lorsque me tâtant le rectum, je sentis une protubérance comme une grosse hémorroïde ou une petite hernie. Je me suis dit « Oh, oh, qu'est-ce que ça annonce ?» Et nous avons fermé les volets et Peter a regardé Et il a ajouté qu'il y avait l'air d'y avoir quelque chose. Et puis il a précisé « Oh, oh, tu as des vers ? Je vois deux vers blancs. » Alors, j'ai écarté mes fesses et il a extrait deux petits vers vivants se tortillant fins comme une aiguille qui s'agripperait au coton et je les ai mis sur un morceau de carton pour les montrer aux autorités.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
20 octobre 1962, Sam, avec Peter et Hope Savage sous Howrah Bridge, un moment dans la cahute d'un sadhu, fumant et chantant, puis marcher sous le pont pour entendre le rugissement cyclonique d'acier. « C'est une grande machinerie, » dit le sadhu, parlant de l'univers, puis le crématoire de Nimtallah, de nombreux corps dans la flamme de midi, un avec la tête noircie jusqu'au crâne et dents sortant, les yeux éclatés et blancs. Golgotha reposant en place à la tête de la pile de bois. Plus tard, un autre visage tout explosé et ruisselant de graisse, repassé à côté plus tard et le crâne s'était ouvert. Le masque d'eau du visage tout noir était descendu, où aurait dû se trouver le cou, parmi les copeaux de bois calcinés et brûlants. Mais le cerveau apparut soudain. Pas encore brûlé, comme le tracé d'un fleuve de boue vu d'avion. Un flot de boue consciente. L'intérieur du pudding, chou-fleur du cerveau jaune-marron dans la fumée, virant lentement au noir et se mettant à fumer, et bientôt je voyais un cerveau en flammes, encastré dans le fond du crâne, ouvert comme un poudrier. Masque facial détaché, comme un couvercle de boîte ronde, et le lit de fleuve du cerveau sec marron en dessous, comme vue d'avion. Allure majestueuse. Où ? Qu'est-ce qui mijote au crématoire ? Suis rentrée ce soir, Sam, avec Sandy Pan et Shakti. Me suis assis pour fumer une pipe avec un sadou âgé à peau foncée et l'air autoritaire. Plus tard, lui ai offert une cigarette. Il me l'a rendue. « J'ai déjà un bidi qui brûle. Tu as une minute de retard. » J'ai répondu « Je vais la garder pour le prochain kalpa. » Il se mit à penser et répliqua « Quoi que t'apporte ma bénédiction, papier qu'on nomme argent, shankar, siva, moksha, garde-en la moitié et envoie-moi la moitié. » J'ai ramassé une pincée de débris brûlant par terre et l'ai placée sur ma langue et lui en ai offert une pincée. Il répéta sa requête. En sortant, une famille assise autour du corps d'une femme, sur un lit chargé de fleurs, le fils chauve caressant le visage sévère de sa mère, yeux et lèvres fermés, silencieux et rigides, et sinistres, tandis qu'il se penchait sur elle, passant sa paume sur son front et pleurant. Puis il se frotta les yeux et brusquement leva le poignet pour regarder sa montre, le tout contre le lugubre mur en ciment et en briques rouges du crématoire, à côté d'un puits à cendres de 2 mètres de long, pilier du petit rêve de Rembrandt, murant la façade opposée, comme une miniature du terrain de jeu à Chichen Itza. Pris un taxi pour traverser Hora Bridge et manger dans une liquor house du quartier Mahometan, enfant dormant sur la zone mouillée d'un sentier, à côté de pots d'argile cassés et de feuilles jonchant le sol, et une petite femme mince portant un pot en cuivre rempli de fleurs blanches et jaunes. Et une lyre gopie sébile, combinée à une corde, et une image de son gourou debout devant sa poitrine, yeux louchants, passant devant un marchand de fleurs. Je n'ouvre jamais les yeux sur des êtres humains. Chantait d'une voix plaintive une chanson indienne aigrelette sur une seule note, triste avec son visage levé vers la lumière de la rue. Vagabond Ball s'en alla en chantant et en asillant, tandis qu'elle marchait vers le coin de la rue, lumière loin du pont. Gopal est mon héros, je ne vois que Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
1er octobre, Ram, Ram, Hare, 62. En tram, Upper Chitpur Road, vers la mosquée. Acheté un aphrodisiaque musulman, assis sur l'estrade en bois de la boutique, bavardant avec le propriétaire, gros type moustachu, qui m'expliquait, pour le plaisir, si l'érection ne dure pas assez longtemps, plaisir temporaire. Puis suis allé à pied jusqu'à Mahatma Gandhi Road, à travers des foules de gens et des flaques noires éclaboussant mes mollets, traversé une rue latérale vers Bura Bazar et bu un verre de sherbet sans bang, servi d'une petite pile verte humide sur un bloc de marbre, à côté de la glace, du parfum et des grumeaux de lait. Puis, balade vers le nord de la ville et traversée d'un parc où de vieilles femmes enveloppées d'un drap blanc étaient recroquevillées sous un abri. À gauche, vers le Gange, traversée une rue latérale tortueuse où un vieux brahman ventru m'a montré du doigt sur son perchoir derrière son étalage. Vers les crématoires en flammes de Nimtala, dans le jardin, des groupes accroupis faisaient cercle autour de petits tas de fleurs dévotionnelles et allumait de l'encens et de petites flammes et broyait du ganja. Du ganja et du tabac dans leurs paumes et faisait passer la pipe, un sadou couvert de cendres en pagne, aux cheveux longs et bavoir au-dessus du pagne, fins bras et jambes et voix de grenouille, accroupi avec les autres, circulait du groupe en groupe, un tambour ça et là, et un mendiant aveugle dans l'allée tapotant son tambour et chantant constamment. Le sadou s'est levé pour danser dans tous les sens, geste sexuel de serpent comme un sketch burlesque, faisant la quête pour de l'argent et du prasad, qu'il engouffrait immédiatement avec une ardeur exagérée et contrainte. Marchait au milieu des brûlots, pile de bois rouge complètement brûlé, avec un grand pied d'apparence lépreuse sortant de la pile de bois et pas encore atteint par les flammes. Puis repérait un jeune sadou dans une alcôve, assis, jambes croisées, observant les combustions, suis allé nonchalamment jusqu'à lui et l'ai dévisagé, mais il ne bougeait pas, son œil clos. Sorti de ce terrain enfumé et suivi le Gange sur la rive élevée d'énormes groupes, 10-15 hommes, accroupis en rond, faisaient passer la pipe de ganja, fumant avec la prière exclamatoire « Bom Bom » avant de lever le visage et les mains, les doigts serrés sur la pipe pour prier, yeux au ciel, fermés. Me suis baladé dans le mandir, temple, où se pressent les marchands de fleurs et les sadhus. Un jeune type beau, à demi nu, assis à côté d'un vieux saint-père aux cheveux blancs en crinière de lion et habillé en orange, endormi pour avoir trop fumé. Un sadhu aux cheveux ébouriffés et en pagne que j'ai dévisagé. Et je suis parti, avec regret. De retour au crématoire, regardez le corps nu d'un petit enfant enduit de graisse et sur lequel priaient les servants du feu. Ils frottaient de la graisse ghee avec leurs mains sur le minuscule ventre et le pénis et le crâne aux cheveux noirs. Puis, ils soulevèrent le corps vide au sommet d'une petite pile de gros bois et l'y disposèrent, couvert de mousseline, disposèrent les petits bras le long du corps et alignèrent les pieds, les genoux reposant sur les blocs de bois coupés, pour être brûlés. Et le corps d'un vieil homme d'apparence prospère, couché, enfoui sous une couverture de copeaux de bois, la tête laissée libre pour voir découverte, tandis que le feu brûlait sous sa plateforme, la graisse huileuse transpirait sur son visage mort. Groupe d'hommes entrant et sortant en chantant des chansons, prières, exclamations, tout le monde défoncé, criant « Haribol !» dit ou nomme Hari. Un homme, habillé en orange, m'avait offert une bouffée de sa pipe peu avant. La fumée sentait la chair brûlée et le bois mouillé acre, tandis que je faisais le tour des flammes. Un bonnet en blanc, les jambes croisées devant un puits consumé, et de retour à l'alcôve, un vieux tantrique habillé en orange s'était installé là et se préparait à méditer. J'allais jusqu'à la porte et regardais à l'intérieur. Ses pupilles brillèrent vers moi un instant, tandis que je laissais pénétrer mon regard. Grande barbe blanche. Il claqua des doigts autour de sa tête pour chasser les mauvais esprits, ferma les yeux et compta les fantômes professionnellement sur ses doigts, très efficace et rapide par habitude. Puis, il s'assit et croisa les jambes en l'air, me regarda et me fit signe de m'en aller d'un geste décidé. Je lui fis namasté et m'en allai. Je me promenai à nouveau et vis le vieux qui brûlait, odeur de sa chair, regardai le sadhu danser et continuai à pied jusqu'à Chitpur Road, pris un pouce-pouce après de minuit, retour au restaurant Punjabi pour ronger des os et des pois, et puis je rentrai à pied à l'hôtel Amjadia.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Vendredi 13 juillet 1962. Dernier étage, hôtel Amjadia Chandichok et Princep Street, Calcutta. Je regarde par la fenêtre à barreaux le coucher de soleil et les nuages, comme un film sur le ciel semé de cerfs-volants bon marché en papier rouge, volotant au-dessus des toits à quatre étages qui se détachent sur les brumes tachetées de vert et d'orange de Maya. Descendu prendre une tasse de thé, les serveurs musulmans débraillés, nu-pieds et barbus, en uniforme blanc bordé de noir, le son des clochettes de pousse-pousse contre les brancards en bois, cloche sous les voitures à bras. Dormi tout l'après-midi, après la M d'hier soir, et visite chez le médecin ce matin, pilule contre les vers, et lu Time and Newsweek, et l'autobiographie de Thubten Jigme Norbu, constamment les détails inaperçus de l'univers en marche à l'extérieur de la pièce, où dans la chaleur et la maladie et la léthargie, Peter et moi sommeillons et lisons et bouquinons et dormons. Maintenant, soir fait nuit et la réalité des milliers de marchands des rues pieds nus et des conducteurs klaxonnant dehors, visible en bas, en même temps des deux fenêtres, alors que je suis assis au lit les jambes repliées sous moi, Peter se réveille à demi endormi. Mon bras va tomber. Je lui fais un massage. Son bras est endormi et insensible et couvert de sueur. Des lampes au néon dans le magasin de porcelaine et de vaisselle en bas. Une demi-douzaine de réverbères brûlant l'image en pointillés ressemble au Chinatown de Lima il y a 2 ans. La plupart des voitures qui passent en fonçant ont des lumières rouges derrière. Mendiant nasal ou voix de vendeur. Le ventilateur tournoyant au-dessus de nos têtes depuis 12 heures, tout au hasard encore comme n'importe quel cut-up. Burroughs, ça fait déjà un an, continue à me hanter. J'ai dormi tout l'après-midi, et quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'était le matin, je ne savais pas où j'étais. Je n'avais pas de nom pour l'Inde.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
19 mars 1962, 3h du matin, la hanche gauche. Visite à la fumerie d'opium de Delhi. Ruelle classique avec vieux palanquin cassé fait d'un charpoil de rue, lit tissé sur grossier cadre en bois, couvert d'une tente miniature avec rabat ouvert et un type mince et grisonnant servant deux énormes eunuques travestis en haillons et voiles rouges qui se sont arrêtés dans un frou-frou pour acheter une cuillerée, et nous, à la porte d'un foyer contigu, étable humaine, sur la douce échelle de bois menant dans le noir à la plateforme soupente, petite alcôve en saillie avec le cuisinier sérieux, moustachu, jambes croisées, veillant sur une flamme dans une bouteille au bouchon percé d'un trou rond, faisant tourner des bulles ambrées d'opium sur la pointe d'aiguille en fer, gouttelettes prélevées dans une petite cuillère cassée de liquide noir, les tourne au-dessus de la flamme, presque brûlée, les replonge dans la cuillère et tourne la bulle à nouveau jusqu'à formation d'une goutte qu'on met de côté prête à servir. Jusqu'au moment où on la soulève, liquéfiée par la flamme, et on la rentre dans le minuscule trou d'un fourreau d'une pipe de la taille d'une poignée de porte, introduite avec l'aiguille pour remplir le trou jusqu'au bord et faire un cercle miniature percé au milieu, qui est tenu au-dessus de la flamme à nouveau jusqu'à ce que les bulles de fumée soient aspirées comme une locomotive par le fumeur à travers le fourreau et le tuyau jusqu'au poumon et gardé là sans se mélanger à l'air des narines. Le fumeur est tendu sur la hanche gauche, se relaxant sur la toile d'emballage de la niche douillette, quelques amis indiens mariés venus voir, tête reposant sur un chiffon posé sur une brique, aucun geste sauf celui de se coucher, tenir et sucer quand la pipe lui est mise entre les lèvres par la main droite du cuisinier, dont les mains abaissent alors le fourneau près de la mèche enflammée et maintiennent avec attention l'aiguille sur le petit trou d'opium, le purgeant des bulles qu'il fait, et après une longue sucée de locomotive, fumée emplissant les narines et la gorge et les poumons, donne un coup sur le tuyau d'acier avec une aiguille d'acier disciplinée pour dire que la pipe est finie et qu'il est temps de la recharger. L'opium original semi-liquide dans une fiole en verre marron chauffée à la flamme et versée dans la cuillère à partir de quoi les opérations sont menées de la manière décrite ci-dessus, menant au bout d'une heure ou plus, de minuit à 3 heures maintenant, à des rêves tissés dans une gaze si fine que les fils se sont cassés avant que d'éveiller pour les fixer dans mon carnet. Le lait du paradis de Coleridge, description d'un microscopique organisme intérieur méditatif plongé dans une rêverie hypnagogique. Long plaisir délicieux, différent de manger de l'opium ou de se shooter de l'héroïne ou de la méthadone. Constance de l'imagination et du repos assuré. Tout procédant de cette ruelle musulmane banale et sordide de Delhi, où les enfants traînent leurs haillons et chantent en se tortillant sous les toits humbles et les vieux chefs de famille se tiennent en groupe ou, assis sur le pas de leur porte, dans l'obscurité tombante, indifférents au spectacle familier du voisinage et aux rêveurs, lits publics et à la terrasse délabrée du toxicomane du coin, qui soudoie le flic chaque jour et obtient la paix éternelle. Le marchand qui a quitté sa petite maison voisine aux deux pièces humides et la fille mère faisant cuire des chapatis dans un rougeoiement cendreux pour nous amener jusque-là, à travers ruelles et étalages de bazar, de hasard, tout au long des dédales anonymes, nous accompagnant ensuite jusqu'à la grande rue, toute proche, pour nous trouver un cyclotaxi, pout-pout, à deux places, et nous renvoyer chez nous, intimidés, détendus et tout à la joie de cette vieille innovation. Milliers de scènes semblables en Inde que je n'ai pas écrites, mais vues.